MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous allons parler ensemble de la performance. Croules-tu sous le poids de la performance? C'est notre thème du jour. Et nous sommes avec notre invitée de la semaine, Séverine Acuse. Bonjour Séverine.
Bonjour Séverine.
Bonjour Aurélie.
Très contente de t'avoir. Hier, je t'ai présenté. Tu es coach certifié. Tu es membre de l'équipe Nouvelle Vie.
Oui.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et tu as aussi une mission, tu dis, d'aider les chrétiens à développer leur leadership personnel.
Exactement.
Parfait. Et donc aujourd'hui, tu vas faire un conseil du coach. On va parler de la performance et toi particulièrement, tu vas nous parler de l'épuisement professionnel.
Oui, effectivement, je vais parler de ce thème, de ce sujet dont on parle de plus en plus, hein, d'ailleurs. Hein, c'est un phénomène assez récent, mm-hmm. le burn-out, mm-hmm. l'expression anglophone. Et puis, je vais parler vraiment de c'est quoi les origines, c'est quoi les conséquences, mais surtout comment l'éviter, le prévenir et éventuellement en guérir si jamais vous êtes déjà rendu là.
D'accord, parfait, super. En tout cas, hier, si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vous invite à la réécouter. Vous allez voir que Séverine est une coach vraiment professionnelle. Elle nous a fait un super conseil du coach. Donc, je m'attends à également un super conseil du coach aujourd'hui. Pas de pression.
Pas de pression.
Pas de performance. Pas de performance. On va commencer avec toi, Aurélie. Ça va bien?
Oui, ça okay. va très bien.
D'accord, je te salue d'ailleurs.
Je ne suis pas sous pression.
Pression. Il n'y a pas de pression, ma sœur. C'est la grâce, la liberté de la grâce aujourd'hui. Et on commence tout de suite dans la pensée du jour.
Lorsqu'on parle d'esprit de performance, on parle des personnes qui ont tendance à tout chercher à obtenir par leur mérite au détriment de la grâce de Dieu. La Bible nous encourage à aller de gloire en gloire, donc c'est très bien que de vouloir toujours progresser. Mais lorsque, à l'intérieur de nos cœurs, c'est le mérite qui compte, lorsqu'à l'intérieur de nos cœurs, c'est par nos propres forces, par nos propres moyens qu'on pense qu'on acquiert des choses, mais en fait, c'est là où l'esprit de performance est pleinement manifesté. Mm-hmm. Je vais vous donner quelques aspects qu'on peut retrouver dans la vie chrétienne par rapport à l'esprit de performance. Si vous vous reconnaissez dans ces différents aspects, mais il est temps de dire non et de stopper ces choses dans votre vie. Alors, comment est-ce qu'il peut se manifester? L'esprit de performance, c'est parfois ce qui fait en sorte que plusieurs, au lieu d'agir, manifestent une grande peur qui les cloue sur place. Là, on va voir des personnes qui sont dans une réflexion profonde. Elles n'agissent pas, elles n'arrivent pas à obéir à une instruction qu'elles ont reçue, tellement elles veulent performer que ça les pousse à tellement réfléchir et à ne pas passer à l'acte plutôt que d'obéir à Dieu. Et ça mène, comme on a vu, comme j'ai dit, à la désobéissance au lieu de compter sur Dieu. Vous pouvez choisir, lorsque vous êtes dans ce type de situation, de juste vous abandonner entre les mains de Dieu en sachant que c'est lui qui vous a donné la parole et c'est lui également qui vous donne les capacités pour le réaliser. Ce n'est pas votre réflexion, la façon dont vous allez paraître devant les gens qui comptent, mais c'est Dieu lui-même. Mmh. L'esprit de performance aussi rend difficile l'action de grâce parce que vous aurez l'impression que vous avez tout accompli par votre propre force, par votre propre vigueur, par votre propre travail. Alors que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 5 que notre capacité vient de Dieu. Mmh. Une autre chose encore, c'est que l'esprit de performance te fait te fier aux exploits d'hier pour les combats d'aujourd'hui. Pourtant, la Bible nous dit que la grâce et la bonté de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que pour chaque jour dans nos vies, il y a une grâce qui est disponible pour faire les choses, mais quelqu'un de performant va chercher ses victoires d'hier pour pouvoir accomplir les choses d'aujourd'hui, au point où si aujourd'hui ça ne marche pas, la personne va se questionner mm-hmm. au lieu tout simplement de s'ouvrir et de se remettre à la grâce de Dieu. L'esprit de performance entraîne également la comparaison et on voit hein, dans la parole de Dieu dans Luc 18, il y a ce pharisien qui vient avec le publicain et lui, il cite tout ce qu'il fait, il dit des choses qu'il est en train de faire et la Bible dit que c'est le publicain qui est parti en étant exaucé et ce pharisien qui priait deux fois par semaine, qui donnait la dîme, qui faisait tant de choses, lui, il n'a pas été exaucé. Pourquoi? Parce qu'il était là avec un esprit de comparaison. Et cet esprit-là, ça a une dimension un peu... Il y a une expression qu'on utilise chez nous comme ça qui dit « M'as-tu vu ? » Mm-hmm. Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait ? Est-ce que tu as vu mes actions ? Tu as vu ce que j'ai posé ? C'est ça qui qualifie au lieu d'être qualifiés par la grâce de Dieu. Mais la Bible nous montre que Dieu ne regarde pas à tout ça. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de cette veuve, si Dieu regardait juste à la quantité de choses qu'il pouvait qualifier, Dieu n'aurait pas zoomé sur cette femme-là. Mais parce que Dieu n'a pas ce regard, mais tout simplement, il l'a zoomé sur elle. Donc l'esprit de performance amène à la comparaison et ça amène aussi à l'orgueil. Ça, surtout dans le cas des personnes qui ont parfois des résultats, qui ont des prières exaucées comme elles le pensaient. Là, l'orgueil va se développer. On peut penser que c'est parce qu'on prie mieux que les autres, peut-être parce qu'on prie plus longtemps, parce qu'on a une belle discipline de prière, qu'on voit nos prières exaucées au détriment des autres. Mais là, c'est tout simplement une manifestation de cet esprit de performance. La liste pourrait être encore très longue. Je vais vous laisser analyser à la lumière de votre propre vie, mais je vous encourage aujourd'hui à ne pas rester sous cette performance-là, à reconnaître que votre capacité vient de Dieu et vraiment à vous retourner vers la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque matin pour votre vie.
Amen. Merci Aurélie pour ta belle pensée. Et au début de ta pensée, tu as parlé du mérite et je vais tout de suite partir à notre verset du jour qui va vous encourager si vous croulez sous le poids de la performance. Le psaume 127 au verset 2, la Bible dit « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et c'est un psaume qui, à mon sens, est encourageant. Ce n'est pas un psaume qui nous incite à la paresse. Non, pas du tout, en disant « Je ne travaille pas, il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. » Ce n'est pas ça la pensée de ce psaume. Mais la pensée de ce psaume est de dire qu'au-delà de mes efforts, au-delà de mon travail, il y a la main invisible de Dieu qui travaille pour me bénir, pour faire prospérer ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin de porter ce poids, comme tu dis, de performance sur moi-même. Et je peux m'approcher vraiment avec grâce. Je peux faire appel à la grâce de Dieu, ne pas rester dans le mérite. Et puis, tu es là à trimer au détriment de ta santé personnelle. On va en parler dans le conseil du coach, au détriment même de tes relations personnelles, de ton épanouissement, de ta vie de prière, parce que tu es là en train de donner à 100 000 %, mais de dire, en fait, je peux me reposer sur la grâce de Dieu.
Oui, d'ailleurs, ce psaume commence en disant que si l'Éternel ne bâtit la maison, mais celui qui l'a bâti, il le fait en vain. Et s'il ne veille, celui qui veille, le veille en vain. Donc, ça veut dire que si on n'inclut pas Dieu dans les actions qu'on est en train de faire, il y a beaucoup de chances que ce soit des choses vaines parce que ça ne repose sur rien d'autre que sur nous-mêmes. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Et c'est ça qu'on parle de l'esprit de performance. C'est lorsque tout repose sur toi. Lorsque tu penses, et on est dans une société qui aime vraiment cette façon de penser, où voilà, c'est par ton travail que tu as acquis les choses. C'est parce que tu as labouré dur que tu as eu certains résultats. C'est sûr, on n'est pas en train de rejeter le travail, on n'est pas en train de dire que le travail n'est pas bien, mais tes capacités viennent d'où ? Si tu reconnais que tes capacités viennent de Dieu, d'ailleurs, Paul, il a dit que j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il reconnaît que derrière ce travail qui était énorme, peut-être que les autres n'ont pas accompli, se cachait quelque chose, c'était la grâce de Dieu. Mais s'il avait juste dit, ah non, moi j'ai travaillé plus que eux tous, hein, j'ai voyagé, j'ai souffert plus que eux, et qu'il se reposait sur lui-même, là on ne serait plus dans le registre de la grâce, on serait dans le registre des efforts personnels. Et à ce niveau-là, mais ce qu'il aurait fait par rapport au verset du psaume 127 qu'on a vu serait tout simplement vain.
Un des éléments que je retiens dans ce que tu as partagé puis qui m'a particulièrement interpellée, c'est quand tu as parlé de la gratitude. C'est vrai que des fois, on peut tomber dans la performance, mais sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on veut bien faire, on a l'impression que c'est ça qu'il faut, puis il y a des besoins, les besoins sont là, puis on a le sentiment que des fois, tout repose sur nous, puis que c'est ça que le Seigneur nous demande. Et puis, on sait que Dieu nous a donné des capacités, mais à un moment donné, c'est comme si on se perd là-dedans. Beaucoup de personnes ne tombent pas dans l'hyper-performance par orgueil. Il y en a, bien sûr, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui tombent dans l'hyper-performance parce qu'il y a des besoins et parce qu'ils se donnent et qu'ils pensent qu'ils ont les capacités d'eux, ou en tout cas, Dieu leur a donné les capacités. Puis d'un seul coup, ça repose sur eux. Puis la gratitude nous permet de remettre le focus au bon endroit, de pouvoir nous rappeler qu'effectivement, ça ne vient pas de nous, de célébrer ce que Dieu a fait au travers de nous et puis de célébrer aussi ce qui se passe autour de nous, d'enlever le focus plus en fait de sur nous pour honorer, célébrer, rendre honneur à qui honneur est dû, ouais, à Dieu et aux autres personnes qui ont contribué. Mmh. Alors, j'imagine que dans vos émissions, vous avez sûrement déjà parlé des journaux de gratitude, des choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'encouragerais les uns et les autres de pouvoir cultiver ça, de cultiver un cœur de reconnaissance, de gratitude, de l'action de Dieu au travers de nous. Ça nous permet de prendre de la distance, puis de remettre les choses à leur bonne place.
Mmh. Oui. Et il y a aussi un aspect que je trouve quand même important de parler par rapport à la performance, c'est que quelquefois, justement, certaines personnes veulent aller plus loin dans la vie. Et si on ne fait pas attention, on peut basculer dans la performance au lieu juste de grandir. Mmh. Et même quand on parle de la comparaison aussi, une personne peut nous inspirer, mais on peut aussi tomber dans la performance. Mmh. Si tu regardes peut-être Nadine, tu dis, mais Nadine, elle prie par exemple une heure chaque jour et que ton objectif, c'est de performer, mais tu vas vouloir battre le record de Nadine. Mmh. Mais Nadine peut t'inspirer à grandir dans ta vie personnelle pour te dire, ah, mais moi, j'ai l'habitude de prier 5 minutes, j'aimerais aller plus loin. Donc, ça veut dire que pour une même action posée, il peut y avoir à un niveau le désir de grandir, mais il peut y avoir à un autre niveau l'aspect performance. Mmh. Et on doit faire attention à ça, parce que oui, on doit grandir. La Bible dit qu'on doit aller de gloire en gloire, mais c'est l'attitude de notre cœur qui détermine ce qu'on est en train de faire. C'est l'attitude qui va déterminer si on est dans la performance ou si on est en train tout simplement de progresser dans la vie. Parce que quand on parle de performance, on dira quelque part, oui, il faut grandir, il faut être performant quelque part. Mais on ne parle pas de la performance qui vise à exalter son propre ego, à se comparer à autrui, mais on parle vraiment de quelque chose. Il s'agit, dans le bon sens en tout cas, de quelque chose qui va viser à nous pousser d'aller plus loin, mais sans cet esprit qui ne compte pas sur la grâce de Dieu.
Mmh. Et en fait, tout à l'heure, vous avez toutes les deux parlé de la grâce et la reconnaissance, être reconnaissant. J'avais justement cette pensée. Dans Deutéronome, Dieu va dire au peuple d'Israël que lorsqu'ils seront dans le pays qu'il leur a promis, et qu'ils auront des maisons, qu'ils auront des biens et tout ça, de ne pas dire « c'est ma force, c'est la force de ma main qui m'ont acquis ces richesses », mais de reconnaître la main de Dieu, de reconnaître la provision divine. Et je crois qu'on parle de performance, et même dans notre vie spirituelle, je veux aussi quand même mentionner ce point-là. Hier, dans le conseil du coach, Séverine a dit que des fois, ce sont nos pensées inconscientes, en fait, qui vont se manifester, par soit dans nos émotions ou dans nos actions, et qui vont montrer, en fait, la racine de ce qu'on est en train de faire. Et on parle de performance, et peut-être que vous vous dites, moi, je ne croule pas sur le poids de la performance, mais dans ta vie spirituelle, si tu penses que tu peux juste te présenter devant Dieu quand tu as tout bien fait, que tu peux juste te présenter devant Dieu un peu comme ce publicain, à force de tes mérites, de ta belle vie de prière, de ton assiduité à l'église, etc., etc., c'est ça qui te qualifie, entre guillemets, de te présenter, et les jours où ça va moins bien, les semaines où ça va moins bien, tu es comme un peu, entre guillemets, gêné d'aller dans la présence de Dieu. C'est un indicateur que là, la performance est en train de s'apesantir sur nous. On a une mauvaise conception de notre relation avec le Seigneur. Alors vraiment, sois encouragé. Oui, on veut grandir comme Aurélie l'a dit, on va aller plus loin, on est inspiré par les autres, mais que cette performance, entre guillemets, ne soit pas un blocage dans ton avancement. Et dans la vie du travail, dans la vie professionnelle, le mot performance est même un bon mot. Aujourd'hui, on en parle et peut-être ça a l'air un peu négatif.
C'est ça, il fallait faire.
C'est ça, mais au travail, dans la vie professionnelle, performer, mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça peut être un poids, justement, et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur le bord d'un épuisement professionnel. Comment éviter cela? On va regarder ça tout de suite avec Séverine dans la rubrique Conseil du coach.
Allons un peu plus loin dans le thème du burn-out professionnel. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas une spécialiste du thème, mais j'en parle et c'est un sujet qui me passionne, premièrement parce que moi-même, je suis passée par là. Il se trouve aussi qu'il y a plusieurs personnes de mon entourage proche qui sont passées par là. Et dans les personnes que j'accompagne, 50% des gens qui viennent à moi sont passés par là ou sont des fois à l'intérieur d'un épuisement professionnel. Donc, c'est beaucoup plus populaire populaire que ce qu'on pense. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse définir c'est quoi exactement le burn-out, l'épuisement professionnel. J'ai pris la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui définit la chose ainsi. Le syndrome d'épuisement professionnel, également désigné par l'anglicisme burn-out, combine trois choses. Le sentiment de fatigue intense, une perte de contrôle et une incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Le mot burn-out a fait son apparition assez récemment, on parle dans les années 60, et il était particulièrement créé pour particulièrement désigner les personnels soignants, les infirmières, les médecins, les personnes qui étaient auprès des malades, qui se donnaient beaucoup au point de s'épuiser. C'est là l'origine du mot. Et puis, il s'est diversifié, il est devenu un peu plus généralisé, on va dire, depuis. On s'entend que c'est un thème vraiment d'actualité parce qu'il a été mentionné par plusieurs spécialistes que la pandémie a aussi accéléré ça. Il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans l'épuisement professionnel dû à l'isolement, dû au fait qu'il y avait moins d'activités autres que le travail. Alors, il y a des personnes qui ont pris la distance, le télétravail peut-être a aidé, mais il y en a d'autres qui se sont vraiment garrochés, en bon québécois, dans le travail au point de s'épuiser parce qu'ils avaient, entre guillemets, rien d'autre à faire. Les chrétiens sont particulièrement vulnérables à l'épuisement professionnel. Parce qu'il y a quelque chose dans notre ADN qui est d'être dédié aux autres, de se donner beaucoup, passionnément, d'être dévoué au point de s'oublier. C'est pour ça que c'est un sujet extrêmement intéressant à aborder aujourd'hui. En fait, si on pouvait vulgariser un peu c'est quoi le burn-out, c'est un écart qui se creuse entre l'idée qu'on se fait de ce qu'on devrait réaliser et la réalité de notre quotidien. C'est l'écart entre les deux. Et c'est une situation, en fait, qui amène un mal-être physique et psychologique dans notre quotidien. Intéressant, fait intéressant, c'est que ça touche autant les hommes que les femmes. Ça touche toutes les classes de la société, les cadres, les dirigeants, quel que soit le salaire. Il est vraiment démontré qu'en fait, ça peut toucher tout et n'importe qui. Dieu nous a bien créés et nous a donné ce qu'il faut pour passer à travers les épreuves de la vie. Il nous a donné une bonne capacité de nous adapter aux différents changements dans notre environnement. Le souci dans l'épuisement professionnel, c'est qu'on se trouve devant une surexposition d'un facteur de stress sur une durée prolongée. Et c'est ça qui crée, qui déclenche un syndrome d'épuisement professionnel. Avant de se rendre au summum de l'épuisement, une personne peut passer par différentes phases. Le surmenage, l'acharnement, la personne essaye, se bat, essaye d'y arriver, désillusion, j'y arrive pas, effondrement, comme on dit, la personne est brûlée. Vraiment le cas de le dire. Là, aujourd'hui, on l'utilise un peu dans tous les cas de figure, mais le mot burn, là, brûlé de l'intérieur. Pour savoir où est-ce que vous êtes rendu là-dedans, puis savoir si vous êtes au milieu ou vers la fin, sachez qu'il y a des signes avant-coureurs. Je vous en citer quelques-uns. Vous allez pouvoir identifier où est-ce que vous êtes rendu. Il y a deux types de signes, deux types de symptômes, physiques et psychologiques. On va commencer par ceux qui sont physiques. On parle du sommeil, on parle de troubles digestifs, on parle d'épuisement, de fatigue, de maux de tête, de maux de dos. Ça, c'est le côté physique. Dans le côté psychologique ou dans le côté comportemental aussi, on peut avoir de l'anxiété, de l'inquiétude, une capacité réduite de pouvoir justement rester dans la performance, des troubles de l'humeur et une grande démotivation. Le burn-out résulte de plusieurs facteurs. C'est l'ensemble de plusieurs facteurs qui amènent une personne à tomber dans un épuisement ou dans un burn-out. Le premier, celui qu'on cite le plus souvent, c'est la surcharge de travail. Je n'ai pas besoin d'en parler plus. Celui qu'on sous-estime, mais qui pourtant a exactement les mêmes effets, c'est la sous-charge de travail. C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent avec pas assez de travail, ça les conduit à être démotivés, ils ont une perte de sens, les journées sont longues, ils se demandent à quoi ils servent, et ça produit exactement les mêmes effets qu'une surcharge de travail. Deux éléments aussi qui sont intéressants à souligner, c'est que ça découle souvent de la personne qui est au-dessus de nous, donc de notre employeur, de notre leader, par exemple dans nos églises. Il y a deux éléments qui peuvent contribuer à amener quelqu'un dans un épuisement. Le manque de soutien, le manque de reconnaissance et le manque de confiance et d'autonomie. On parle vraiment d'employeurs ou de leaders qui sont contrôlants, qui sont dans la micro-gestion, qui donnent peu d'espace et qui apprécient peu. Ça arrive des fois dans nos églises qu'on prenne pour acquis nos bénévoles, qu'on prenne pour acquis les gens qui se donnent et qu'on ne soit pas suffisamment à l'écoute et à pouvoir éventuellement leur donner un break de temps en temps parce qu'ils sont en train de se donner un petit peu trop. Des fois même, on va contribuer finalement à leur épuisement. Il y a des personnes qui sont prédisposées à tomber dans un épuisement. Ce n'est pas tout le monde qui tombe dans l'épuisement. Il y a vraiment un type. C'est souvent des personnes qui sont justement extrêmement dévouées, des personnes qui sont de nature extrêmement travaillante. Ils se donnent et sont très, très impliqués dans leur travail ou dans leur implication. Ils sont adeptes du perfectionnisme, souvent. Ils en donnent plus que ce que le client demande, comme on dit. Puis le dernier, c'est le côté des personnes qui ont de l'ambition. Il n'y a rien de mal à être ambitieux, mais il y a des personnes qui se perdent dans l'ambition au point de se brûler à l'intérieur. Donc, comment éviter l'épuisement professionnel? Moïse, c'est la personne, quand on parle de l'épuisement professionnel chez les chrétiens, on va citer Moïse. Quand il s'est retrouvé en charge du peuple à la sortie du pays d'Égypte et que son entourage lui a dit « Ok, il y a beaucoup là, tu peux pas tout faire. » Le verset biblique dit « Ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple avec toi. La tâche est trop lourde. » C'est ça l'épuisement professionnel. C'est là le signe avant-coureur, là, c'est quand on est en train de s'épuiser, qu'on est en train d'épuiser les autres, qu'on est en train de se perdre et qu'on finalement, on ne fait pas la bonne chose. C'est ça le signe avant-coureur. Donc, je vais vous donner trois questions qui vont vous permettre de vous identifier puis de vous situer par rapport à ça. On est en prévention, ok? Tantôt, on va parler de si jamais on est tombé dedans, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, avant de tomber dedans, posez-vous ces trois questions-là. La première, c'est quelle est la place de mon travail dans ma vie? Première. Souvent, on manque d'équilibre. Ceux qui tombent dans l'épuisement, là, ils travaillent juste trop. L'expression « travaille trop ». Deuxième, quelles sont les raisons de mon mal-être au travail? Il y a des personnes qui vont travailler semaine après semaine, qui ne vont pas bien, qui ne se sentent pas bien, mais qui ne prennent pas le temps de questionner pourquoi ils ne vont pas bien. Et quand ils, finalement, s'écroulent, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils relativisent en disant « ça va mieux aller ». Ça va mieux aller, ça va mieux aller. Mais il y a une accumulation. Tantôt, je parlais de c'était quoi? C'est un facteur de stress qui dure dans le temps et qui finit par épuiser une personne. Donc, quelles sont les raisons? Prendre le temps de s'arrêter. Quelles sont les raisons de mon mal-être au travail? Et le troisième, comment je peux modifier mes conditions de travail pour éviter que ces situations-là se produisent? Ça, c'est les trois questions à se poser si jamais vous avez l'impression que vous êtes dans le surmenage ou que vous vous questionnez sur l'épuisement professionnel. Si jamais vous n'avez aucune réponse aux questions que je viens de vous poser, ça veut dire que vous avez déjà dépassé le stade de l'acharnement et qu'il est vraiment, vraiment temps maintenant de réagir. Je vais vous parler de trois étapes. C'est les mêmes étapes que vous soyez au début de l'épuisement ou que vous soyez dans l'effondrement, ce sont les mêmes étapes. C'est juste qu'elles sont peut-être plus courtes, moins intenses, mais elles sont toutes nécessaires si vous voulez vous relever d'un épuisement professionnel. Le premier et non le moindre, c'est qu'il faut absolument s'arrêter, faire une pause. C'est la meilleure solution pour arrêter le cercle vicieux qui s'est mis en place parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on est tombé dans un cercle vicieux. La majorité des gens tombent dans un épuisement professionnel, c'est vraiment le cas. Ils tombent dans l'épuisement professionnel, ils ne l'ont pas vu venir. Donc, la meilleure façon d'arrêter le cycle, c'est de s'arrêter. Deux choses qui vont être intéressantes, qui vont être importantes à faire là-dedans. C'est pour ça que tantôt, je disais, je ne suis pas une spécialiste, je suis une coach, je ne suis pas une psychologue. Ce qui est très, très, très important, c'est de rencontrer un médecin et de faire un diagnostic clair de où est-ce que vous êtes rendu. Oui, ça peut être l'épuisement, mais ça peut être une dépression, ça peut être un trouble anxieux. Il y a plusieurs. Les symptômes que j'ai dit tantôt ne sont pas spécifiques à l'épuisement professionnel. Il peut y avoir d'autres choses. Et vous pouvez être, je vous ai parlé des différentes phases, vous pouvez être au début, mais vous pouvez être aussi au plus grave stade de l'épuisement professionnel. C'est important pour pouvoir vous relever, savoir exactement où est-ce que vous êtes et poser le vrai diagnostic. Pas un auto-diagnostic, mais d'avoir quelqu'un qui va vous diagnostiquer avec des questions précises. Le deuxième, c'est que la pile, elle est à plat. Et la seule façon de se recharger, c'est de faire une pause. Mm-hmm. C'est pas vrai que quand on est tombé dans l'épuisement professionnel, ce n'est pas en continuant et en pensant que ça va mieux aller que les choses vont revenir. C'est vraiment la pause qui va aider. Alors, c'est pour ça que tantôt, je disais, si on est au début, c'est-à-dire au niveau de la charge mentale ou de l'effondrement, sachez, par exemple, que si vous êtes dans l'effondrement, ça se peut que vous soyez arrêté entre 6 mois et 1 an. C'est pour ça que je parlais tantôt de prévention, parce que si on dégringole dans les phases, la remontée est vraiment plus longue. Donc, soyons vigilants, soyons sensibles, écoutons notre entourage. Souvent, notre entourage va nous voir aller. Puis, ayons l'humilité d'écouter, parce que souvent, les gens autour voyaient que la personne était en train de rentrer dans le mur, comme on dit, mais finalement, n'a pas été assez sage pour entendre puis ralentir. La deuxième étape, oui, s'arrêter, mais comprendre ce qui s'est passé et tirer des leçons. Parce qu'en fait, quand je disais tantôt, il faut arrêter le cycle, si on agit de cette façon-là, c'est qu'on a un rapport au travail qui est malsain. On a un schéma de croyance lié au travail qui n'est pas le bon. On croit qu'on est indispensable. On croit qu'on a une image professionnelle. Tantôt, tu parlais de l'image professionnelle que l'on renvoie et qui est primordiale pour nous. Il y a le côté qu'on veut paraître fort, qu'on veut paraître... Puis on n'arrête pas de dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Puis on utilise certains versets bibliques pour justifier quelque chose qui n'est pas sain. Dieu ne nous demande pas d'aller aussi loin. Donc l'idée là, de la deuxième étape, comprendre ce qui s'est passé et tirer des leçons, l'objectif ultime, c'est de se rééquilibrer. Rééquilibrer la vie personnelle puis la vie professionnelle. La troisième étape, c'est de se bien préparer au retour au travail et surtout de rester vigilant. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est pas vrai que ça va s'arranger tout seul. Et c'est pas vrai que on peut recommencer comme avant. Si vous recommencez comme avant, vous allez forcément reprendre un mur. Donc, il faut absolument qu'il y ait un changement. Ça va demander des efforts, ça va demander d'être aidé, d'être soutenu. Mais l'idée, là, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Il faut changer son rapport. En fait, c'est pas tant les actions. Les actions vont être le fruit d'une réflexion et d'identifier ce qui nous a amené là et d'apporter des modifications pour pas retomber dans ce cycle-là, qui était inconscient. La majorité des gens, comme je dis, tombent dans l'épuisement sans s'en rendre compte. Mais une fois que la lumière est faite, je suis épuisée, qu'est-ce qui m'a amené là? Puis modifier la chose pour être capable de se reconstruire et de pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Donc en conclusion, si jamais vous êtes dans un épuisement, si vous êtes en ce moment justement peut-être sur le bord là, ne le voyez pas comme un échec, ok? Comme je vous dis, ça se peut que vous soyez tombé là-dedans, vous n'en êtes pas rendu compte. Prenez-le comme une leçon de vie, comme un signal d'alarme, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu se sert des situations de nos vies pour nous éclairer, pour nous montrer où est-ce qu'on et pour nous rattraper, pour nous remettre sur le bon chemin. Donc ne le vivez pas comme un échec, prenez des leçons et remettez-vous sur la bonne voie. Et vous allez voir par expérience, parce que je suis passée par là, il y a un avant et un après. Si on tire les bonnes leçons, on va se retrouver avec une vie plus équilibrée, plus saine, un rapport avec nous, avec Dieu, plus équilibré aussi, une vie plus enrichissante et beaucoup plus harmonieuse.
Amen. Merci beaucoup pour ta rubrique. Séverine, vous avez beaucoup de points, en tout cas, vous aurez l'occasion, en tout cas, de réécouter la rubrique et de vous saisir de ces points-là si vous êtes vous-même à risque d'un épuisement professionnel. Pendant que Séverine parlait, elle répétait quelque chose qu'elle a aussi dit hier, que Dieu nous a bien créés. Dieu nous a bien créés. Et si on regarde un être humain ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24 sans sommeil. À un moment donné, le corps a besoin de se reposer, les yeux doivent se fermer, on doit dormir. Et ce temps de sommeil est un temps où on est régénéré, où on est ressourcé. Donc vraiment que juste cette image-là puisse vous amener, vous qui êtes à risque d'épuisement professionnel, de comprendre que non, il y a un équilibre à aller chercher. Et comme Séverine l'a dit elle-même, elle l'a vécu et on va en parler demain. Demain, notre thème sera « Attention au burn-out » et on aura une rubrique « C'est mon histoire avec toi, Séverine ». Tu vas venir nous raconter ton témoignage de comment toi-même tu as vécu un burn-out et comment le Seigneur t'a relevé. Alors, ce sera notre thème de demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.